parce que on nous dit que le Christ nous appelle par sa mort et sa résurrection. Et ça fait écho à ce qu'on a dit l'autre jour. On disait, ce sont les souffrances du Christ qui sauvent le monde. Bon, je trouve qu'il manque un mot, c'est la vie du Christ. Parce que on réduit la vie du Christ à, on l'a déjà dit l'autre jour, hein, mais comme on a un nouvel orateur, on va écouter ce qu'il nous dit là-dessus. L'autre jour, on a trouvé que c'était voilà, la souffrance du Christ. Certes, mais là où il a transmis, là où il a enseigné, là où il a vécu, enfin, moi je dirais, le Christ nous sauve de sa naissance à sa mort. Sa mort, bien sûr, elle est importante, et la façon de mourir résume une partie de la vie, c'est sûr, mais quand même, le message, le Christ, on le suit, pas parce qu'il est mort, on le suit parce qu'il a vécu. Et donc là, on a dit aussi la même chose tout à l'heure, la grande œuvre du Christ, la grande œuvre du Christ, c'est sa mort et sa résurrection, ouais, dans le texte. Ben, non, la grande œuvre du Christ, moi je dirais, c'est sa vie, sa mort et sa résurrection.
Alors, je pense que c'est difficile de... Je pense que c'est difficile de disjoindre...
Le Christ ne meurt pas comme nous mourons, puisqu'il est, comme il le dit, il est celui qui ne perd pas sa vie, mais qui la donne. Nul ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Et donc, du coup, toute la dynamique de sa vie, elle n'est pas accidentellement conduite à la mort, mais elle est pleinement récapitulée dans la manière dont il meurt. Or, il ne meurt pas autrement qu'en se donnant. Et donc, si tu veux, on peut dire que toute sa vie est importante, mais elle est importante parce qu'à chaque instant, il s'y est donné. Si on résume toute la vie de Jésus, on peut toujours constater que quoi qu'il fasse, il donne à chaque fois. Il donne le pain, il donne le salut, il donne la guérison, il donne un enseignement, il se donne. Et de la manière la plus totale, il se donne sur la croix. Moi, c'est comme ça que j'explique la phrase, et je te redonne la parole, c'est comme ça que j'explique la phrase « Celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive ». Pour moi, ça n'a rien à voir avec la souffrance. Moi, je refuse absolument la souffrance, et je la trouve détestable, et elle est à combattre. En revanche, prendre sa croix, ça veut dire trouve l'endroit où tu vas pouvoir ouvrir les bras et donner ta vie. Et du coup, là, ta vie aura du sens. Et c'est ce que j'essaye d'enseigner aux jeunes, notamment aux professions de foi, en leur remettant la croix, en leur disant maintenant, réfléchissez, où est-ce que vous voulez que votre vie ait du sens? Où est-ce que vous voulez te donner? Et du coup, c'est pour ça qu'on comprend que ultimement, il se donne le plus là. Et en plus, il y a le mystère théologique, mais qui est dur pour nous à comprendre, qui est que là, sur la croix, et dans le mystère de la mort, dans le samedi saint, là, toute l'humanité est récapitulée, reprise et rendue à la vie. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment là la grande œuvre. Parce que tout le reste, comme je disais tout à l'heure, ça a concerné au mieux 10 000 personnes, au mieux du mieux, plus les gens qui auront lu les évangiles et qui auront été touchés par ce qui aura été dit. Bon, ça fait quelques millions, mais les milliards de milliards sont touchés uniquement par l'acte théologique qui échappe à la raison et qu'on découvrira pleinement seulement au ciel, et qui est le fait que nous sommes appelés à la résurrection. C'est pour ça qu'on insiste là-dessus.
Oui, sauf que dans ce que tu dis, qui est plus long que quand on dit « nous sauve par sa mort et sa résurrection », tu insistes effectivement sur le don de sa vie.
Ouais.
Et le don de sa vie,
ouais,
quand on dit « il a donné sa vie en mourant sur la croix », on a l'air de dire qu'il a voulu mourir sur la croix. Non, il n'a pas voulu mourir sur la croix. Il a voulu donner sa vie, comme quand on va enterrer une mère de famille, ou quand on va... certains d'entre nous là, qui sont en phase finale, hein, dans notre paroisse, ben, elle a donné sa vie tout au long de sa vie. Ce n'est pas le jour de sa mort qu'elle donne sa vie, c'est tout au long de sa vie. Le Christ, c'est pareil.
Oui, oui. Mais je
il
maintiens que... Non, mais c'est surtout l'acte de la mort est quand même un acte particulier. Qui est vraiment... Ça, c'est Karl Rahner qui a... théologien allemand qui a beaucoup réfléchi à ça, Le chrétien et la mort, qui a fait un livre là-dessus, en expliquant à quel point cet acte est un acte des actes. Et d'où l'importance, par exemple, qu'on vivait jusqu'à la fin du 19e siècle, de l'exercice de la bonne mort, qui n'est plus du tout à la mode aujourd'hui, mais qui était quand même quelque chose d'intéressant, de se mettre spirituellement en disposition d'être capable de lâcher. Mais voilà, c'est... En tout cas, on peut ne pas être pleinement d'accord, mais... mais on, je crois qu'on dit à peu près la même chose. Oui, Valérie.
Oui,
pardon. Ouais.
Quand il y a écrit, si nous sommes devenus avec lui un même être par une mort semblable à la sienne.
Oui.
Voilà, la mort du Christ est quand même particulière.
Oui.
Je ne sais pas comment notre mort peut être semblable à la sienne.
Alors en fait, ça c'est, je pense que là il est fait référence au baptême justement. C'est que par la grâce baptismale, par le fait que dans le baptême nous sommes symboliquement, mais réellement, enfin mystérieusement mais réellement, comme dit le Concile, emportés dans la mort du Christ, et eh bien là, elle est là, la mort semblable à la sienne. C'est, voilà, c'est dans le baptême. C'est comme ça que je répondrais. Mais je pense que c'est aussi l'idée qu'on disait là, que si notre vie aussi est faite de dons, alors nous pouvons dire que nous mourrons comme lui, en vivant la croix, c'est-à-dire en se donnant.
Nous, on avait un petit peu buté sur le thème « Nous sommes assumés dans les mystères de
Ah oui, oui. C'est vrai que j'ai
c'est
pas vraiment répondu.
Pourquoi nous sommes assumés ? On ouais. a discuté un moment avec ça.
Alors, c'est là, hein. Oui, c'est ça. C'est pourquoi nous sommes assumés dans les mystères de sa vie, configurés à lui, associés à sa mort et à sa résurrection, en attente de l'être à son règne. L'idée, c'est que il nous précède. Il est celui qui montre le chemin, donc par tous les actes de sa vie, en effet, chacun des actes de sa vie, jusqu'à sa croix. Et du coup, puisqu'il nous précède, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas inventeurs au sens de découvreurs, mais nous sommes pris par, assumés par lui qui est déjà devant nous. C'est ça l'idée. Être assumé, c'est ce que vit par excellence la Vierge Marie dans l'Assomption. Elle est assumée, elle est prise dans. D'où la théologie de l'Assomption qui est de dire être emporté pleinement à Dieu. Et donc, nous qui vivons une Assomption dans les mystères de sa vie, donc là tout d'un coup, quand on emploie le mot Assomption, on comprend un peu mieux. C'est-à-dire qu'il y a l'idée aussi d'être élevé, etc. Quand j'étais petit, je confondais tout le temps ascension et assomption, je ne voyais pas la différence. En fait, ça n'a rien à voir, quoi. Il y a l'ascenseur et le fait d'être assumé. Rien à voir. Les deux mots ont juste une vague ressemblance phonétique. Donc nous sommes dans une assomption dans les mystères de sa vie, configurée à lui, associée à sa mort et sa résurrection, en attendant de l'être à son règne. Donc tout au long de notre vie, toute notre vie de foi, est d'être conduit, aspiré par le Christ, repris par lui. Et du coup, ça met aussi sur lui la responsabilité, quelque part. C'est de dire que c'est pas à nous de tout faire. Dieu est là devant nous, qui a déjà fait le gros du boulot. Nous, on a un peu qu'à consentir. Et je crois que dans notre vie de foi, c'est vrai. C'est que finalement, on perd plus d'énergie, on utilise plus d'énergie à résister à l'œuvre de Dieu que nous n'en dépensons à vouloir collaborer avec lui. Et je crois que c'est vrai. Vous voyez, on a les jetons, quoi. Alors qu'en fait, les gens, c'est ça le saint. C'est ça, et moi je le vois, je suis toujours extrêmement ému par les personnes handicapées mentales, qui sont des personnes qui sont fondamentalement marquées par le consentement. Elles n'ont pas d'autre choix que de se laisser faire. Et c'est toujours des personnes qui sont conduites par Dieu, volontiers, d'une manière ou d'une autre d'ailleurs, parce qu'elles n'ont pas toutes une foi explicite, mais parce qu'elles se laissent faire comme un enfant. Vous ne pouvez pas venir au ciel si vous n'êtes pas comme un petit enfant. Le propre du petit enfant est d'être dans le consentement absolu. Il ne peut pas déployer une énergie à résister puisqu'il n'a pas d'énergie de résistance. Dieu sait si vous avez sans doute, vous les mamans et les papas d'ailleurs, souffert de l'impression de résistance de vos enfants quand ils hurlaient ou je sais pas quoi. Mais vous avez aussi expérimenté le fait qu'ils se laissaient faire parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est tellement beau. Et du coup, voilà, être assumé, c'est se laisser faire. C'est comme ça que je l'explique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui.
Je voulais revenir sur la première conviction.
Oui.
L'Église n'est pas une société humaine,
oui.
Mais elle est la continuation de la venue de Dieu. Quand même, pour partie, elle est une société humaine.
Alors,
voilà, parce qu'on ne peut pas... sinon, toutes les erreurs qui ont été commises au cours de l'histoire, on ne les aurait pas.
Oui, hein, exactement.
Quelque part.
Précisément, on peut dire que toutes les dimensions d'erreur appartiennent aux hommes et sont le fait de... On dit, là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Donc ça, c'est bien vrai. Donc on gâche un peu les choses. Mais la nature profonde est d'être une société divine. C'est un acte de foi, hein, ça. Et c'est pour ça que ça m'arrive souvent quand il y a des journalistes qui m'appellent pour parler des questions secondaires. C'est tout le temps ça. Et je leur dis toujours, bon, par exemple, l'histoire de célibat, l'histoire de drames de l'Église, pédophilie et compagnie, je leur dis toujours, retenons bien que le but de l'Église n'est pas que de se débattre dans ces questions-là qui semblent quand même secondaires, mais elle prétend à beaucoup plus. ils s'en foutent pas mal, hein, mais c'est normal, c'est leur boulot de ne pas parler de ça. Mais du coup, il ne faudrait pas qu'on s'arrête à cette dimension humaine, qui est réelle, parce que quand le pape choisit, par exemple, quand l'Église s'organise au moment de la réforme grégorienne, au XIIe siècle, c'est à ce moment-là qu'on décide, par exemple, d'avoir des cardinaux, qu'on décide que ce sont les cardinaux qui éliront le pape. Puis encore plus tard, on décidera que les papes seront élus avec la porte fermée à clé, conclave, etc. Ça, c'est des dimensions assez humaines, finalement. Pourquoi des cardinaux? Pourquoi les curés de Rome sont les cardinaux? Pourquoi ça se passe comme ça? Ça, c'est très humain. Pourquoi le prêtre s'habille avec un uniforme bizarre ou pas? Ça, c'est très humain. Et ça, c'est une dimension qu'il faut tout à fait assumer. Mais nous croyons qu'au-delà de ces dimensions humaines et des choix qui sont liés à notre culture, qui sont liés à notre intelligence ou à notre manque d'intelligence, toutes ces choses-là qui font notre humanité, au-delà de ça, il y a vraiment un élan divin. C'est ça que je veux dire. Et il faut toujours croire à cet élan divin et essayer de purifier la dimension humaine dans notre appartenance ecclésiale pour arriver à Dieu, quoi. Du coup, ça veut dire que, ouais, c'est ça, il faut parfois laisser un peu de côté nos goûts, nos dégoûts, nos craintes, etc. En disant, bon, Dieu conduit. C'est très clair, par exemple, quand il y a un nouveau pape qui arrive. Je trouve que c'est un formidable élan pour notre foi. Si on est plus ou moins à l'aise avec sa manière de faire, ou sa manière de dire, etc. Et c'est là où on peut se tester en disant, mais est-ce que je suis vraiment chrétien ou est-ce que je suis papiste de tel pape? C'est très frappant en ce moment. Il y a quand même un choc des civilisations entre François et Benoît. Eh bien, heureux sont ceux qui ont été à suivre Benoît tranquillement et dans la foi, et qui ensuite arrivent à suivre le pape François sans être dans le doute et dans la remise en question systématique et complotiste. C'est ça être chrétien, c'est dire c'est Dieu qui conduit. C'est pas la même direction, c'est pas la même manière de faire, mais c'est Dieu qui conduit. Moi, c'est comme ça que j'essaie de le voir. Mais en tout cas, bien sûr qu'il y a beaucoup de dimensions humaines.
Ça veut dire aussi que ce qui est humain peut être révisé.
Peut-être
révisé.
Bien sûr. Les dimensions humaines de l'Église, bien sûr, ce qui n'est pas du domaine de ce qu'on appelle la foi
en
révélée.
En gardant le sens.
Voilà, ouais, c'est ça. Oui, il y a une dimension politique, mais qui a bien changé. Le Vatican, jusqu'en 1870, c'était un tiers de l'Italie. Et donc, du coup, c'est devenu, vous savez, après la spoliation, après la l'unification italienne, on a tout perdu. Puis Mussolini, en 1929, a redonné le rocher du Vatican. Et donc, du coup, la dimension étatique, elle est minuscule. Mais elle reste importante, parce que, justement, par cette dimension institutionnelle et humaine, on a une possibilité de parler avec les hommes. C'est que si on était dans une prétention angélique à dire « Ah, nous, les réalités de la Terre, nous n'y touchons pas, etc. », comment est-ce qu'on pourrait parler aux hommes? Alors que là, le pape, quand il parle à un chef d'État, il sait ce que c'est que d'avoir un gouvernement, il sait ce que c'est que d'avoir des ministres qui ne lui obéissent pas, il sait ce que c'est que d'avoir des problèmes de fric, il sait tout ça. Et du coup, et nous, les prêtres, c'est pareil. Moi, je répugne à ce qu'on nous enlève tous les soucis matériels. Parce que souvent, on me dit « Ah, mais c'est pas ton métier de prêtre. » Mais par pitié, moi, j'ai besoin d'avoir les mains dans la merde et de voir ce que c'est que de devoir... Moi, j'aime bien faire avec Alain Rousseau des bricolages et des trucs, parce que c'est important qu'on soit comme les autres hommes. Et du coup, quand je parle à un autre homme, je peux lui dire « Bah oui, on est pareil, quoi. » Et la chaudière, « Bah oui, j'ai essayé tout à l'heure. » Mais après, on a chacun nos charismes et nos désirs. Mais j'insiste là-dessus pour dire que cette dimension humaine, parce que quand tu dis il y a la dimension politique du Vatican, c'est un peu gênant, etc. Non, non, moi je crois que c'est important en fait. Et c'est important que du coup, on soit aussi testé sur cet angle-là. Et c'est bien qu'on puisse aller farfouiller dans les finances du Vatican en disant « Mais la banque du Vatican, est-ce qu'elle est si pure que ça ?» etc. Mais très bien, si on n'avait pas de banque, on ne pourrait pas nous juger là-dessus. Et du coup, on est en mesure aussi d'essayer de prouver aux hommes que on essaye de prendre des bons choix, etc. Et globalement, l'Église est quand même beaucoup plus saine que ce que veulent dire les médias. Il y a quand même des choses qui sont belles. C'est important quand même. Parce qu'on a l'impression que tout est affreux, qu'il y a des espèces que de bandits là-haut, etc. C'est pas que ça. Il y en a des, mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Bon, je disais que j'avais été très interpellée par une phrase du texte, et je vais aborder un sujet qui va peut-être un peu déranger. On parlait d'une église, société humaine. Pourtant, participant réellement au corps du Seigneur dans la fraction du pain eucharistique, Nous sommes élevés à la communion avec lui et entre nous. Et entre nous. Que fait l'Église des exclus des sacrements?
L'idée de cette, d'être conduit à l'unité du pain eucharistique est justement de dire qu'on dépasse la simple communion eucharistique. L'idée est de dire qu'il y a un mystère au-dessus et nettement plus fort qui est notre conviction que nous sommes tous le pain, plus même que le manger. Et du coup, ça veut dire que ceux qui ne peuvent pas le recevoir en vertu de la discipline ou bien en vertu de la nature ne sont pas exclus d'être le pain. Quand je dis en vertu de la nature, les personnes qui, par exemple, sont trop loin pour venir communier, ou bien qui sont empêchées pour raison de santé, ou bien les petits-enfants qui n'ont pas encore fait leur première communion, ou bien ceci ou cela, se posent la question aussi en ce moment beaucoup de ceux qui sont allergiques au gluten, par exemple. Est-ce qu'ils ont été maudits par Dieu ? Aux États-Unis, c'est un sacré problème. Aux États-Unis, en Irlande, enfin, dans les pays anglophones, c'est tout un gros problème, où des gens disent « Mais est-ce que nous sommes prédestinés à être incapables de manger le pain ?» Et du coup, c'est une question. Est-ce que j'ai été maudit par Dieu qui m'a empêché de recevoir physiquement sa présence ? Quelque part, ça nous permet de réfléchir les choses en disant « Bien non, voilà qu'on est empêché par la nature, comme on peut l'être empêché par la discipline, de recevoir manifestement, visiblement, le corps du Christ, mais aucunement être empêché de faire partie du pain eucharistique. » Ça, c'est important. Tous sont membres de l'Église, tous sont indispensables à l'Église et font partie de ce grand, de ce corps mystique qui va vers le ciel. C'est pas parce qu'on ne reçoit pas la communion eucharistique qu'on ne va pas au ciel. C'est pas parce qu'on ne reçoit pas la communion eucharistique. Non, c'est important. C'est pas parce qu'on ne la reçoit pas qu'on ne fait pas partie de l'Église. C'est vraiment deux choses différentes. Mais je sais que c'est.
Beaucoup de gens souffrent de ça.
Mais bien sûr. Bien sûr, mais l'Église y travaille. Le diocèse en particulier, il travaille beaucoup. Là, on avait encore avec les prêtres du doyenné, vendredi dernier, on avait une dame formidable, d'ailleurs, qui était très intéressante, qui est venue du diocèse pour nous interroger sur la question des divorcés et remariés, de l'accession à l'Eucharistie, etc. Et c'était très intéressant de voir qu'au niveau du doyenné, on va très probablement rapidement fonder un groupe aussi de réflexion et de prière. L'idée est de. Que toutes ces questions-là ne soient pas des blocages idéologiques. Parce que précisément, c'est ça l'enjeu, c'est que ça ne soit pas le tout de la pensée, mais que ce soit une voie d'accès différente, douloureuse, mais différente au Christ. Comme pour ceux qui sont malades, handicapés, qui sont blessés par la vie de telle ou telle manière, de dire une voie est là, même si elle est douloureuse, c'est une voie vers le Christ. Mais c'est facile à dire quand on n'est pas dans le cas, hein. On est bien d'accord. Mais du coup, voilà, ça répond un peu à votre question.
Mais quand même pas la force du sacrement.
Et si ben, oui, le sacrement autrement.
Si on l'a sans le recevoir.
Regarde, c'est ça, c'est la phrase. En quelque sorte, le sacrement. L'Église est le sacrement. Et du coup, la grâce des grâces, elle est reçue par notre incorporation. Après, il y a des rappels de la grâce qui sont reçus par tous les sacrements qu'on va pouvoir recevoir, ou bien par des voies que Dieu seul connaît. Dieu sait si Dieu donne des grâces en dehors des sacrements. Ça, j'y crois. Et je crois qu'on en est tous témoins. Oui, c'est clair. Je crois que oui, les voies de grâce sont des réponses à nos dons. Je crois que Dieu donne quand on donne, quoi. C'est pour moi une clé. Et celui qui ne fait que venir pour quémander, je crois que quelqu'un qui viendrait à la messe de manière très pieuse, très inquiète, et qui viendrait pour recevoir, pour manger son bon Dieu, comme on disait au 19e, et qui viendrait un peu avide, et un peu en disant ben, « j'ai fait ma part, donc donne », ne recevrait rien. Mais ne recevra que la petite vieille qui vient donner dans la cagnotte juste 2 pièces tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà qu'elle a tout donné, donc elle recevra tout. Et donc c'est de la même manière, notre chemin de foi est conduit par nos capacités de don et par le fait que nous consentions à nous donner. Là, on reçoit. Ouais, c'est vrai. Bon, il est 22h. Ah, pardon, Marie-Françoise, dernière question. Je vais me faire engueuler après.
Oui. Oui, et je voulais savoir si on pouvait développer un peu souffrant et glorifié.
Ah. Donc, souffrant, donc c'est là. C'est souffrant et glorifié. Unis au Christ, souffrant et glorifié. Donc, on revient un peu à la question de la mort, mais c'est le fait que dans ce corps, la vie du Christ se répand à travers les croyants que les sacrements, d'une manière mystérieuse et réelle, unissent au Christ souffrant et glorifié. C'est-à-dire que dans le mystère de la résurrection, le Christ souffrant et glorifié, c'est-à-dire le tout de la mystère du mystère de la résurrection, est le lieu dans lequel nous sommes conduits par les sacrements. Mais du coup, comme je le disais, la capacité de don, etc., nos chemins de vie nous conduisent aussi à être souffrants et glorifiés. Mais c'est l'autre chemin par lequel Dieu se donne à nous. Il se donne d'une manière sacramentelle, puisque tout sacrement nous rapporte à la croix, c'est-à-dire le lieu du don du Christ, l'eau ouverte par lequel sort le côté ouvert par lequel sortent l'eau et le sang, qui sont la manière que le Christ a de se donner à nous et de nous abreuver. Ça, c'est le symbole des sacrements qui naissent de la croix du Christ. Donc ça, c'est la première chose, la voie sacramentelle. Mais en plus, on convoque, quand on dit souffrant et glorifié, parce que c'est un peu à ça que tu fais allusion, on convoque aussi le fait que nos corps sont souffrants et glorifiés. Souffrant ici-bas, glorifié après. Et glorifié déjà un peu ici-bas aussi. C'est-à-dire le mouvement des grâces et des souffrances. Ce que Saint Ignace de Loyola appelle les désolations et les consolations. Notre vie spirituelle est marquée par des hauts et des bas. Et du coup, ce qui est important, c'est de l'identifier et de le vivre en considérant que là se donne Jésus. Des hauts et des bas. Et si on ne va pas bien, c'est aussi une manière d'être en contact avec Dieu, d'une manière différente. Même si on n'a aucunement envie de prier, aucunement d'être, même en contact avec Dieu, parfois on est un peu dans le rejet, etc. Eh bien, c'est pourtant un moyen d'être différemment au contact du Christ, parce que lui aussi a vécu ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est le mystère.